les hommes. Les hommes.
Le mystère des mystères dans la guerre, son caractère tragique, était dans ce droit qu'avait un homme d'envoyer d'autres hommes à la mort. Ce droit reposait sur le fait que les hommes allaient au feu au nom d'une cause commune.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à vous, auditeurs, auditrices des rencontres de Pétrarque en direct de la cour du rectorat de Montpellier. Un lieu calme, un lieu lumineux, un lieu propice à la réflexion si la canicule ne nous écrase pas. Des rencontres en direct et en public, un public fidèle depuis 35 ans. Hervé Gardette, en me passant le flambeau, m'a murmuré que certaines personnes revenaient chaque année, parfois même à la même place, j'en vois dans l'assemblée. Et oui, c'est désormais une voix féminine, la mienne, qui va mener ces rencontres. Je suis d'autant plus honorée que je succède à deux illustres prédécesseurs, Emmanuel Laurentin et Hervé Gardette, que je salue amicalement, de même que je salue respectueusement la directrice de France Culture, Sandrine Krenner, qui m'a suffisamment fait confiance pour me confier la reprise de cette émission mythique. Mythique parce que cette année est déjà la 36e édition. Alors ces rencontres, eh bien nous les avons conçues, imaginées avec Sandrine Krenner au début du mois de mars, donc il faut se remettre dans le contexte, l'offensive de la Russie contre l'Ukraine le 24 février. Il nous a paru alors évident qu'un seul sujet, un seul horizon s'imposait, celui de la guerre et son corollaire, la paix, pour rester guidé par les vers du poète Hölderlin, « Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve ». Nous avons donc choisi de donner un titre tourné vers l'espoir pour ces rencontres. Nous serons donc animés toute la semaine par cette question « Quelle paix pouvons-nous espérer ?» Ça sera vendredi, en compagnie de grands reporters, écrivains et de romanciers à qui nous demanderons comment on raconte la guerre et si on écrit la paix. Jeudi, autour des civils, traumatisés, déplacés, réfugiés, comment ils construisent l'après, comment on peut les aider à se réparer. Mercredi, nous nous demanderons si la justice n'est pas l'une des conditions de la paix. Demain, si la diplomatie peut arrêter la guerre. Enfin, toute cette semaine, nous serons en partenariat avec la revue Le Grand Continent, incarnée par Baptiste Roger Lacan, qui est à mes côtés. Bonjour Baptiste. Bonjour, bonsoir. On est à la fin de la journée, mais il fait encore très chaud, très beau. Vous êtes l'éditeur et le directeur de la lettre hebdomadaire de cette revue. Peut-être un mot sur cette revue pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore.
Avec joie. Le Grand Continent, c'est une revue pluridisciplinaire et plurilingue qui a été fondée en 2019 à l'École normale supérieure et qui cherche à construire un débat stratégique, intellectuel et culturel à l'échelle continentale, essentiellement l'échelle européenne. Nous venons de publier le premier volume papier de la revue aux éditions Gallimard, qui s'appelle « Politique de l'interrègne ». Et c'est une joie et un honneur pour nous d'être partenaires.
Et on verra toute la semaine que plusieurs de nos invités ES, ont déjà participé à votre revue passionnante. Je vous ai chargé de faire une synthèse de nos discussions chaque jour, chaque soir, à 18h55, à charge pour vous de prendre des notes et de nous faire une sorte de résumé conclusif et introductif du lendemain. Et pour cette première, inspirée par ce que d'aucuns ont appelé dès la fin du mois de février le retour de la guerre en Europe, nous allons tenter de comprendre ce qui est en train de se passer sur le continent européen en compagnie de nos trois premiers invités que je remercie très chaleureusement d'avoir fait le voyage jusqu'à Montpellier. Un responsable politique, Enrico Letta, est avec nous. Bonjour.
Bonjour, bonsoir.
Secrétaire du Parti démocrate italien, vous avez été président du Conseil des ministres en Italie et vous êtes actuellement le président de l'Institut Jacques Delors. Une philosophe, Céline Spector, bonjour.
Bonsoir.
Oui, bonsoir, pardon, c'est vrai qu'il faut que je dise bonsoir. Vous êtes professeur à Sorbonne Université, vous êtes membre honoraire de l'Institut Universitaire de France. Vos travaux vous portent depuis quelques années sur l'Union Européenne comme force politique, comme force de philosophie politique. Je peux citer votre dernier ouvrage paru au Seuil en 2021, « Nos démos, point d'interrogation, souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe ». Et puis un historien, bien sûr, Stéphane Audouin-Rousseau, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, président du Centre international de recherche de l'historial de la Grande Guerre de Péronne. Vous avez travaillé sur la Grande Guerre, donc, mais aussi sur le Rwanda, sur les massacres, sur les guerres de masse. Je disais évidemment un historien parce que dès que nous parlons de guerre, il est très important de remettre les choses dans leur contexte. Et c'est ce qu'on va voir ce soir, puisque depuis que le maître du Kremlin a lancé ses chars et ses missiles sur l'Ukraine, laissant piller, tuer, violer sans complexe. Nous voyons en direct sur les chaînes de télévision en continu et sur les réseaux sociaux l'horreur quotidienne d'une attaque qui menace à chaque instant de passer par-dessus les frontières fragiles de l'Union européenne et de l'OTAN. Mais comment qualifier, et j'insiste sur le mot qualifier, ce qui se passe aux confins de l'Europe depuis maintenant presque 5 mois? À quoi assiste-t-on? Et je vais me tourner tout de suite vers vous, l'historien Stéphane Audouin-Rouzeau. Comment vous qualifieriez ce qui est en train de se jouer là?
Alors, la question que vous posez est simple et en même temps très difficile. Hein, c'est qu'en quelque sorte, que se passe-t-il? C'est une bonne question de sciences sociales. Que se passe-t-il? Alors, il y a un jargon, le jargon militaire ou stratégique apporte la réponse dans tous les médias depuis longtemps, depuis plusieurs mois maintenant. Donc, une guerre dite de haute intensité, une guerre symétrique ou largement symétrique, qui pour un historien de la Grande Guerre est devenue très frappante par sa proximité précisément avec le premier conflit mondial. Passer les mouvements relativement importants du début, eh bien, le front s'est fixé sur 900 kilomètres, 200 de plus que le front franco-allemand pendant la Première Guerre mondiale. On assiste à ce phénomène qui est typique de la guerre moderne, qui est ce qu'on appelle la bataille continue. La bataille continue est une forme de guerre de position où les avancées sont très lentes, extraordinairement coûteuses en matériel et en hommes, et une guerre où l'artillerie est redevenue, à la stupeur générale, l'arme de domination du champ de bataille, comme en 1916. Et puis, bien entendu, nous sommes devant donc l'éventualité de la guerre longue. Ce type de conflit, évidemment, fait bon ménage avec évidemment la longueur de l'activité guerrière. Avec néanmoins, à partir de là, une différence majeure qui a été soulignée, bien sûr, en particulier par le général Desportes, dès le début du conflit, qui avait à la fois un général de haut grade, mais également un sociologue du fait militaire, qui a énoncé cette vérité très simple et terrorisante, tellement terrorisante que nous ne l'avons pas vraiment intégrée. La porte du feu nucléaire est ouverte. Et à ce jour, elle n'a pas été refermée. Il me semble que, pour répondre à votre question, donc en fait, ce à quoi nous sommes confronté, c'est un retour du réel, ce que j'appelle le réel de la guerre en Europe, dans sa violence extrême, à dire vrai, un retour précédé par un coup de semonce que nous avions sans doute un peu oublié, le conflit, lui, dit de basse intensité, qui avait éclaté, qui a présidé à l'éclatement de l'ex-Yougoslavie entre 1992 et 1995, et la guerre, c'est le moment où la guerre était revenue en Europe et revenue à un emplacement particulier, de là où elle était partie, Sarajevo, à l'été 14. En creux aussi, il me semble, ce que l'on pourrait dire, et je terminerai par là, en creux, ce qui me frappe beaucoup dans ce qui se passe, c'est notre propre stupeur. Je parle de l'Europe occidentale, pas de l'Europe orientale, où les choses sont tout à fait différentes. Une Europe occidentale où la déprise du fait guerrier est maintenant ancienne, pour la France depuis la fin de la guerre d'Algérie, pour d'autres pays européens depuis 1945, la déprise du fait militaire aussi, la disparition de ce lien longtemps insécable entre citoyenneté et port de l'uniforme et port des armes, et notre stupeur, du fait que la guerre n'était plus à notre horizon d'attente, pensions-nous, en tout cas pas une guerre comme celle-là, stupeur devant l'éclatement de la guerre, éclatement auquel tant d'entre nous ne croyions pas, devant sa prolongation et devant surtout ses atrocités. Qu'est-ce que l'on croyait? Que les soldats russes allaient aider les vieilles dames à traverser la rue et les aider à faire leurs courses? Et c'était bien mal connaître le réel de la guerre moderne en Europe depuis le début du XXe siècle. Et je voudrais terminer sur mon inquiétude personnelle. Il y en a beaucoup qui touchent à ce conflit, mais une, c'est que c'est l'impression qui me semble prégnante aujourd'hui dans une société comme la société française, que rien de ce qui arrive aux Ukrainiens ne pourrait nous arriver. C'est pour eux, et pas pour nous. L'absence de pensée, de toute pensée, d'un élargissement et d'une aggravation, les deux ne sont pas antinomiques, tout au contraire, du conflit en cours. Voilà pour moi ce qui se passe.
Enrico Letta, retour de la guerre, retour du réel de la guerre, hein, nous dit Stéphane Audouin-Rouzeau. On a pu lire en une du magazine Time américain le 25 février 2022, retour de l'histoire avec un grand H. Le président de la République française a utilisé le terme de retour du tragique en Europe plusieurs fois. À quoi assistons-nous pour vous ?
On assiste au fait que on imaginait que c'était terminé pour toujours, et en vérité, on a eu une parenthèse qui s'est fermée. Moi, je pense que la parenthèse s'est fermée en 2008, quand il y a eu l'invasion de la Géorgie de la part de la Russie. On a vécu 17-18 ans, entre 90 et 2008, où on pensait que c'était fini pour toujours, qu'on était tous ensemble. Je me rappelle toujours, j'étais étudiant à l'époque, puis j'ai continué mes études dans ces domaines, la proposition de François Mitterrand à la fin de 89 de créer, tout de suite après la chute du mur de Berlin, de créer une confédération européenne avec tout le monde dedans, même la Russie. Proposition qui n'avait pas eu un développement ou des conséquences à cause surtout de l'immission de la Russie dans cette idée. Mais en fait, on pensait que la Russie n'était plus la menace. On a passé 18 ans avec cette idée. Et puis tout d'un coup, on s'est réveillé, 2008, invasion de la Géorgie. Et puis, ça a été une continuation, parce qu'on a vécu évidemment le 13 et le 14, en même temps Syrie, Crimée. Syrie, ça a été de mon point de vue le point essentiel, parce que quand les grandes puissances et les Nations Unies disent qu'il y a des lignes rouges, on parle de lignes rouges, et quand ces lignes rouges sont franchies, évidemment, sans qu'il y ait des conséquences, ça commence à donner l'idée à M. Poutine qu'il y a un décalage total, et ça c'est le sujet d'aujourd'hui, le décalage est entre ceux qui sont capables, comme disent les Américains, de mettre boots on the ground, donc de faire la guerre, vraiment, d'envoyer les soldats mourir, et ceux qui ne sont plus capables de faire ça. Et en fait, aujourd'hui, on le voit, l'approche de Poutine est celle de dire « vous n'êtes plus capables de faire ça ». Alors que nous, on est capables, nous, les Russes, on est capables de faire ça. Et donc, ce qui s'est passé le 24 février a complètement changé tout, nous a fait comprendre que c'était une parenthèse qui s'était refermée, mais nous, on a tous changé pendant ces 30 ans, et aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas prêt à vivre les conséquences d'une menace telle celle de Poutine, de l'arme nucléaire et de tout ça. Et donc, on se trouve aujourd'hui confronté, moi je pense que le 24 février, vraiment tout a changé, et le 24 février, c'est le moment où l'Europe doit devenir définitivement adulte dans le domaine dans lequel elle a été jusqu'à maintenant la plus petite et faible. L'Europe a grandi avec la monnaie unique, avec la réponse aux crises économiques, Next Generation EU, le plan de relance après la crise du Covid, l'endettement commun, c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas. L'Europe qui grandit, l'Europe de la santé qui fait les vaccins tous ensemble, en 2020-21, là aussi, l'Europe qui grandit, qui devient puissante aussi dans des domaines dans lesquels elle ne l'était pas. Et aujourd'hui, on se trouve en face d'un grand défi, de devenir tous ensemble en matière de sécurité et de défense, ce qu'on n'est jamais devenu. On voit les conséquences, le Suède et la Finlande qui entrent dans l'OTAN. Mais moi, je le dis en terminant ces propos, moi, je pense qu'il y a là un défi vital pour l'Europe. L'Europe doit démontrer qu'une guerre qui se passe en Europe va devoir être résolue, trouver sa solution en Europe. Il ne peut pas se passer, comme vous disiez auparavant, que la guerre en Bosnie, moi, je me rappelle toujours, où est-ce qu'elle a été signée, la paix ? En Ohio, aux États-Unis. La guerre au cœur de l'Europe, la paix trouvée par les Américains aux États-Unis. Là, il faut que l'Europe prenne le sens de son devoir historique. Il faut faire des changements. Il faut faire des changements institutionnels. On pourra en parler tout à l'heure. Mais il faut que l'Europe soit décisive dans ce. Il faut qu'elle soit unie. Elle l'a été jusqu'à maintenant. J'espère qu'elle va continuer à l'être. Mais c'est quelque chose de vital pour notre avenir.
Céline Spector.
Oui, alors j'approuve tout à fait ce qui vient d'être dit. Je voudrais peut-être donner un point de vue légèrement différent qui serait celui de la théorie des relations internationales. On a souvent dit, hein, et c'était notamment le cas d'un politiste américain, Robert Kagan, que l'Europe c'était Kant et les États-Unis Hobbes. C'est-à-dire Hobbes, le philosophe de l'état de nature entre les nations notamment, donc il n'y a pas d'État, il n'y a pas de droit international ou il n'est pas vraiment appliqué. Et donc les États sont voués à rester dans un état de guerre. Et Kant, l'idée qu'on va pouvoir juridiciser, constitutionnaliser les relations internationales et qu'on aura peut-être quelque chose comme une fédération d'États libres. Après tout, l'Union européenne est une modalité de cette construction-là qui permettrait d'établir ce qu'il appelait la paix perpétuelle après bien d'autres. Alors, est-ce que l'Europe est vouée à la paix perpétuelle ? Je crois que ce que nous a appris le tournant du 24 février, c'est un tournant historique majeur, hein, qui n'est pas une guerre dans l'Union européenne, mais une guerre aux portes de l'Union européenne, hein, de même que la guerre en ex-Yougoslavie était une guerre aux portes, en un sens. Eh bien, il me semble que ça nous a appris qu'en fait, on ne peut pas externaliser la question de la guerre et on ne peut pas croire que l'Europe peut être un sanctuaire. Hein, le sanctuaire de la non-violence, de la non-agression, du multilatéralisme et de l'application des normes du droit international, en imaginant que la guerre c'est ailleurs, la guerre c'est pour les autres, et que les empires ne sont que nos anciens empires coloniaux. C'est-à-dire qu'on réalise qu'il y a un empire qui est sur notre continent eurasiatique et qu'il continue à avoir une logique d'empire. Et donc de ce point de vue-là, moi je viens de la philosophie des Lumières, je pense qu'il faut, essayer d'imaginer ce qu'avait essayé d'imaginer Montesquieu en son temps, c'est-à-dire une théorie des relations internationales qui pense la logique de défense des démocraties et qui penche la logique de défense des empires. Et ce que nous apprend Montesquieu, c'est que les républiques se défendent en s'associant, c'est ce qu'on essaye de faire dans l'Union européenne, mais que les empires se défendent en se séparant et en construisant une sphère d'influence, un glacis protecteur, en essayant de satelliser les États qui sont féodataires et en essayant de placer des hommes à la botte du pouvoir de la métropole. Et donc, je crois qu'on a trop longtemps cru que l'ADN de l'Europe, c'était d'un côté le doux commerce, on allait pouvoir convaincre les Russes de faire partenaires d'échange, hein, partenaires commerciaux, et donc peut-être de faire abandonner les projets de conquête, et d'autre part, la paix perpétuelle. Ce qu'on voit maintenant, c'est que ça fonctionne à l'intérieur de la Fédération des Républiques, mais que ça ne fonctionne pas, alors que la menace soviétique revient. Et donc, on est dans cette situation un peu curieuse. On n'a pas repensé la sécurité collective en Europe depuis la chute du mur de Berlin. On n'a pas réussi à penser la sortie de la guerre froide. En fait, on a appelé ça la détente, mais ça ne veut pas dire grand-chose. On a cru un peu au traité de désarmement, mais on voit bien qu'on ne peut plus y croire. Donc la logique de la désescalade militaire, en fait, elle est vaine. Et l'échec de la communauté européenne de défense en 1954, à cause des Français, il ne faut pas l'oublier, eh bien, n'a jamais été surmonté. Et donc je crois qu'aujourd'hui, cet échec de la communauté européenne de défense nous revient en plein visage. On n'a pas assumé notre défense. On voit qu'on est effectivement tributaire et, selon Vladimir Poutine, vassaux des États-Unis au sein de l'OTAN. Et donc il faut prendre en main, et là je partage ce qui a été dit précédemment, il faut prendre en main notre défense si on veut pouvoir prétendre à une forme d'autonomie stratégique. Et ça, je pense que c'est la grande leçon de la guerre qui est venue à nos portes.
Pour passer de la théorie des relations internationales que vous venez de faire, Céline Spector, à la philosophie, je voudrais juste citer un philosophe qui s'est exprimé à de nombreuses reprises depuis le 24 février, c'est Étienne Balibar. Étienne Balibar a dit « c'est notre avenir, c'est notre monde commun ». Qui sont en jeu. Donc, est-ce que vous diriez aussi les uns les autres que cette guerre implique l'Europe en ce qu'elle est une guerre de valeurs, une guerre de principes, que c'est, pour le dire schématiquement, une opposition entre la démocratie les régimes ou un régime autocratique. Stéphane Audouin-Rousseau.
Ça ne me dérange pas du tout de le dire, d'autant plus que on voit bien maintenant, avec le recul que nous avons depuis ce tournant effectivement décisif, hein, comme l'a dit Céline Spector et André Coletta, ce tournant décisif du 24 février, on voit bien à quel point le durcissement de la politique intérieure russe, on pense en particulier à la persécution et finalement à la dissolution judiciaire, hein, de l'association Mémorial en Russie, qui avait fait cet immense travail, hein, d'exhumation littéralement d'exhumation des victimes, hein, de la Grande Terreur et plus largement, hein, des victimes du Goulag, à quel point cette répression intérieure croissante depuis des années était en fait inséparable très probablement de la politique extérieure hein, menée, hein, comme l'a dit Enrico Letta à l'instant, depuis 2008, hein, qui est le tournant caché, en quelque sorte, bien antérieur hein, au tournant du 24 février 2022. Alors moi, personnellement, votre question, oui, la question qui se pose, à mon avis, pour nous, en tant qu'Européens relativement désarmés, hein, et je partage tout à fait le point de vue de ces inspecteurs, désarmés parce que finalement, nous n'avons pas gagné la Deuxième Guerre mondiale avec nos propres forces, nous, les Européens, comme l'avait souligné en son temps Pierre Manant, et nous restons, au fond, hein, dans cette problématique hein, d'une Europe sans doute unie, mais très largement désarmée en tant que force collective. La grande question qui se pose pour nous, c'est comment ne pas perdre la guerre. Avant de penser à la paix, contrairement évidemment au sujet de ces rencontres de Pétrarque, la grande question pour nous, c'est comment ne pas perdre la guerre à travers une défaite de l'Ukraine. Et cette défaite de l'Ukraine, eh bien, elle est évidemment possible. Une défaite partielle ou une défaite éventuellement totale, car on sait aussi qu'une armée peut s'effondrer. Et en même temps, c'est là que s'ouvre évidemment, me semble-t-il, une inquiétude extrême, c'est que l'Ukraine aussi peut gagner la guerre, mais est-ce que la Russie peut la perdre ? C'est ça la question qui se pose aussi aux pays européens. Est-ce que la Russie peut perdre la guerre sans avoir recours, sans avoir la tentation du recours à la levée du tabou chimique et la levée du tabou nucléaire ? Là, c'est la question, à mon avis, qui se pose à nous, pas tout de suite, car pour l'instant, la Russie a l'avantage, mais si la balance des forces pas dans l'autre sens. Et si donc l'armée russe se retrouve en difficulté, à ce moment-là, nos sociétés européennes sont dans une situation extraordinairement dangereuse. Et je suis frappé de voir que ce danger que nous avons au-dessus de nous, eh bien, ne paraît pas très présent hein, dans les sociétés d'Europe occidentale et dans la société française en particulier.
Enrico Letta, c'est l'avenir de la démocratie qui se joue ?
Oui, je pense que oui, et surtout je pense qu'il y a là une énorme préoccupation pour la fatigue qu'il y a dans nos sociétés, et moi je parle ici avec ma casquette politique, évidemment, je suis témoin du fait que dans le monde politique, cette fatigue est parallèle et conséquente, et tout de suite, elle vient tout de suite après à la fatigue qu'on voit dans nos sociétés, on le voit je pense dans les médias aussi. Chez nous, en Italie, il y a un décalage, une dégringolade d'intérêt vers les nouvelles qui viennent d'Ukraine aujourd'hui par rapport à ce qui était le cas il y a 4 mois ou 5 mois ou 3 mois. Et dans le politique aussi, il est évident que c'est ça. C'est évident. Je le vois parce que moi, j'ai mené mon parti politique, qui est le Parti démocrate, c'est le plus grand parti de centre-gauche de mon pays. On a tout de suite pris position. Le 24 février, le matin, je me suis levé, j'ai lu les journaux qui avaient été imprimés le soir avant et qui n'avaient aucune référence à ce qui s'était passé dans la nuit. Et on a vu les nouvelles et on a tout de suite organisé une manifestation en face de l'ambassade russe de Rome. Et on était là, des milliers de gens avec des Ukrainiens, et on a tout de suite décidé de quel côté on était. Mais je vois aujourd'hui toute la difficulté. Je vois les sondages, et je vois les sondages qui sont liés au fait que les gens commencent à voir les conséquences dans la vie quotidienne de chacun d'entre nous. La montée des prix de l'énergie, l'inflation qui monte. Et évidemment, là, c'est un défi pour l'Europe, la nécessité de contrer ces conséquences économiques et de faire en sorte qu'on puisse donner une réponse commune. Et en même temps aussi la capacité de faire en sorte que ce discours sur la force des valeurs de la démocratie soit effectivement là devant nous. Parce que ce qui se passe de l'autre côté, c'est qu'il y a une puissance, une superpuissance, qui a décidé d'effacer l'autodétermination des peuples. Parce que, disons la vérité, chacun d'entre nous, la première semaine de guerre, qu'est-ce qu'on pensait ? On pensait qu'il y avait peut-être quelques jours de temps pour les Ukrainiens de résister, et qu'on s'attendait que Zelensky et son gouvernement partent et aillent à Varsovie, par exemple. Et on a tous été frappés par le fait que cette idée du début n'avait aucun sens, parce que les Ukrainiens ne voulaient absolument pas revenir en arrière vers le pire moment de leur histoire. Ils étaient prêts à mourir pour ça. Évidemment, tout ça a changé complètement. Et la question de l'autodétermination des peuples est une des questions essentielles dans notre discours. Mais là, c'est le moment où on voit qu'est-ce qu'une démocratie, qu'est-ce que la force de la politique, des valeurs, le rôle des partis politiques, le rôle des médias, le rôle des intellectuels et le rôle d'une Europe qui soit unie, qui soit capable, par exemple, je le dis très franchement, de balayer ce scandale absolu qu'on vit dans l'Europe d'aujourd'hui, dans laquelle on est tous ensemble, on paie tous un prix énorme, on aide les Ukrainiens. Et on se trouve à avoir un des 27 membres du Conseil européen qui est clairement l'allié de Poutine, et qui est le Premier ministre hongrois Orban, et qui est là à mettre le veto, qu'il a le droit de l'employer, parce que les règles disent ça, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut éliminer, parce que j'ai jamais vu mettre le veto pour des raisons d'intérêt général. On met toujours le veto pour une question de chantage. Point. Et le problème, c'est que tout ça nous a fait comprendre que notre Europe, ou bien on change de règles, ou bien on a une évolution qui soit une évolution vers plus de solidarité entre nous, ou bien on va se trouver dans des situations clés, comme celle qu'on est en train de vivre, avec des défaillances évidentes. Et c'est évident que Poutine est là, il rigole quand il voit nos difficultés, quand il voit nos faiblesses. Ce n'est pas le moment de la faiblesse ni militaire, ni politique et institutionnelle.
Nous espérons que ces sanctions pourront arrêter le projet armé de la Russie qui vise aujourd'hui l'Ukraine, mais aussi toute l'Europe. L'avenir de la sécurité européenne se joue aujourd'hui chez nous, dans notre maison. Elle se décide aujourd'hui en Ukraine.
Et c'était bien sûr la voix du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il est 18h42 sur France Culture. Nous sommes dans la première émission de cette semaine des rencontres de Pétrarque en direct et en public de la cour sous l'âge du rectorat de Montpellier en présence de nos trois invités. On vient d'entendre Enrico Letta, secrétaire du Parti démocrate italien. On a entendu juste avant l'historien Stefano Douin-Rousseau. Et je vais donner la parole tout de suite à Céline Spector en sa qualité de philosophe qui s'intéresse à l'Union européenne, puisque Enrico L'État disait que c'est un défi vital pour l'Europe hein, qui se joue là, à tout point de vue. Est-ce que vous diriez, vous qui avez signé un nodemos point d'interrogation dans votre dernier ouvrage, que cette guerre a fait apparaître un demos européen? Et qu'est-ce que peut ce demos européen? Demos, c'est nous, au fond. Donc qu'est-ce qu'on peut, nous?
Oui, alors il faut pas aller trop vite en besogne, c'est sûr que il faut pas être exagérément optimiste, mais c'est vrai que la solidarité par la peur est un sentiment extrêmement puissant, hein, qui permet de fédérer des peuples qui, par ailleurs, ont des intérêts nationaux divergents et des positions, entre guillemets, divergentes à l'égard de la Russie, à l'égard des États-Unis, en particulier entre les démocraties d'Europe de l'Ouest et les démocraties d'Europe de l'Est. Donc, si vous voulez, je pense que là, on a un moment où on a levé un certain nombre de fractures. Alors, c'est vrai qu'il y a le cas de la Hongrie qui est particulier, mais pour la Pologne, par exemple, il y a eu un effet fédérateur avec le reste de l'Union européenne. Et on a eu, lors du sommet de Versailles du 10 et du 11 mars 2022, un moment extraordinaire d'unité du Conseil européen, des chefs d'État et de gouvernement des 27 États membres qui, tout d'un coup, ont décidé d'appliquer des sanctions qui avaient été préparées en amont et de mener une politique qui n'avait jamais été décidée auparavant d'aide militaire et d'aide humanitaire à l'égard du peuple ukrainien. Donc je pense que la notion de peuple, il faut la prendre au sens civique et bien sûr pas au sens ethnique. Et au sens civique du terme, tel que je l'entends, eh bien le peuple européen, c'est l'association des peuples européens, des démoi, qui précisément élisent un parlement commun. Et j'approuve complètement ce que disait Enrico Letta à l'instant. Si on veut assumer notre statut dans l'Union européenne, il faut aller vers une fédéralisation accrue. Parce que tant qu'on a effectivement un droit de veto sur les intérêts fondamentaux au Conseil de sécurité, tant que effectivement, il peut y avoir des blocages systématiques, on ne sera pas une véritable fédération et il n'y aura pas vraiment de peuple européen. Donc il manque encore un certain nombre, disons, de verrous qu'on doit, à mon avis, faire sauter dans les années qui viennent pour que nous puissions fonctionner de manière satisfaisante comme une véritable, alors pas une fédération au sens d'un État fédéral complet, mais comme une quasi-fédération. Donc voilà, toute la question pour moi sur le peuple européen, c'est est-ce qu'on peut passer d'une solidarité par la peur, une solidarité négative, qui est dans l'angoisse de la destruction nucléaire, parce qu'évidemment, si les armes nucléaires tactiques peuvent atteindre Varsovie, Copenhague ou Berlin, voilà, nous sommes solidaires en tant qu'Européens de ces capitales, et donc nous éprouvons cette solidarité par la peur. Mais est-ce qu'on peut passer de cette solidarité négative à une solidarité positive? On en a eu quelques exemples avec l'élan de solidarité quand même extraordinaire, alors pas seulement par les Polonais, mais plus généralement par de nombreux peuples européens, face à l'afflux des réfugiés ukrainiens. On a eu cet élan de solidarité extraordinaire et le président Zelensky a dit « Peuple européen, soutenez-nous, peuple européen, levez-vous ». Et il y a eu cette invocation du peuple européen, je pense qu'il y a eu un effet également fédérateur. Évidemment, on n'est jamais aussi bien fédéré que face à la menace. La question est de savoir si face aux difficultés que vous évoquiez, le coût énergétique durable, les crises qui peuvent se profiler à cause de l'inflation, des crises sociales d'une ampleur inégalée depuis la Seconde Guerre mondiale, voilà, la question est de savoir si la fatigue démocratique ne va pas l'emporter. Et je crois que la démocratie, elle est potentiellement faible en temps de guerre. C'est-à-dire qu'en réalité, le problème des démocraties, c'est qu'elles peuvent réagir de manière solidaire et de manière, on pourrait dire, noble, au nom des principes, au nom des droits de l'homme, au nom du respect du droit international. Mais une fois que la guerre s'installe et que ses conséquences, disons, tragiques, pèsent sur les populations et en partie sur les couches populaires, la question est de savoir comment ces démocraties vont, de fait, réagir dans le temps. Et donc, je crois que là, on a, disons, une difficulté par rapport à la Russie, qui, en tant qu'empire, qui cadenasse les médias, qui supprime les oppositions politiques, a un pouvoir de mobilisation par la propagande et par l'idéologie qui est incomparable à celui que nous avons, qui est beaucoup plus puissant. Donc, voilà, c'est ça la question. Est-ce qu'on va pouvoir mobiliser sans réveiller les vieux démons du nationalisme ?
Stéphane Doroso.
Oui, je veux dire que ce qui me frappe beaucoup avec effectivement face à l'Ukraine, c'est que je pensais pas le vivre en tant qu'historien du 20e et du 21e siècle, je pensais pas le vivre dans ma carrière d'historien. Je vois une société d'extraordinaire consentement à la guerre qui est la société ukrainienne depuis le début. Et ça rejoint exactement ce qu'a dit Enrico Letta. L'état-major ukrainien, à ma connaissance, se donnait 4 jours de résistance, pas plus, face à l'armée russe. Et c'est une société de consentement à la guerre, comme l'ont été les sociétés européennes à l'été 14. La Belgique, de manière complètement irrationnelle. La France, bien sûr, le Royaume-Uni, l'Allemagne, etc. Et c'est ça que nous avons devant les yeux, et c'est évidemment un spectacle stupéfiant, et donc une inquiétude, l'inquiétude que dit tout à fait Céline Spector, et qu'a dit aussi Enrico Letta, sur les effets, au fond, de la guerre longue, le phénomène de banalisation de la guerre que l'on voit cette fatigue effectivement de nos sociétés, notamment quand il faudra, et cela a déjà commencé, mais seulement ça n'a fait que commencer, quand il faudra acquitter le prix de la guerre, et le prix de la guerre longue, qui est toujours extraordinairement élevé. Maintenant, est-ce que les démocraties sont potentiellement faibles en temps de guerre? C'est toujours ce qu'on se dit, me semble-t-il, avant la guerre. Ensuite, elles sont parfois surprenantes. Le cas français en 14, en 14-18, qui est, je parle beaucoup de la Grande Guerre, non pas seulement parce que j'en suis un spécialiste, mais parce que la Grande Guerre constitue le référent majeur dans une société comme la nôtre. C'est la dernière catastrophe, en fait, pour la France, c'est la Grande Guerre, c'est pas le Second Conflit mondial. Et la France est en situation unique de ce point de vue en Europe. Donc c'est un référent qui peut nous éclairer. Alors sur cette question de la fédération européenne, une question quand même se pose, et là je la pose à Enrico Letta en tant que politique et à ses inspecteurs en tant que bien sûr que spécialiste de ces questions européennes. Que fait-on de l'arme nucléaire? Que fait-on donc de cet acte de souveraineté terrible, potentiellement atroce, mais qui d'un seul coup retrouve un aspect concret très, très terrible, enfin tragiquement rafraîchi par l'actualité? Que fait-on de la capacité ou non d'une nation et de son chef, du chef de l'État à utiliser l'arme nucléaire si c'était nécessaire? Comment articuler cela? J'ai vraiment pas la réponse, mais comment articuler cela avec ce principe fédératif auquel je souscris pleinement, mais sur le plan militaire et stratégique, je me pose la question ici.
Enrico Letta, vous qui proposez la mise en place d'une confédération de 36 pays, comment répondriez-vous à la question de Stéphane Audouin-Rousseau?
Je pense que vraiment tout est dans les mains de la France, parce que c'est la France la puissance nucléaire de l'Europe, de l'Union européenne. Donc c'est à la France de dire combien la France est prête à partager une partie des décisions politiques qui sont liées à sa présence au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je sais que je touche à un sujet très sensible. Mais je pense que si nous voulons imaginer avoir un futur tous ensemble, fort, et de partager ces défis et de trouver des solutions, il faut partir par là. Et je crois que c'est un... Céline Spector le disait très bien, c'est le moment dans lequel les choses vont changer, d'un côté ou de l'autre. Ou bien on va dans la bonne direction, ou bien on va démontrer... Stéphane, on va démontrer exactement le contraire de la question que vous avez posée. C'est-à-dire, on va démontrer que les démocraties sont plus faibles. Alors, ce que je ne pense pas, parce que l'histoire nous dit normalement que les démocraties sont capables de se mettre ensemble, beaucoup plus que les autres. Les autres, à la fin, ils sont plutôt seuls. Les démocraties se mettent ensemble et démontrent une capacité de résistance beaucoup plus forte. Mais c'est pour ça que moi, j'ai lancé, pousse à fond cette idée de confédération européenne. Le fait d'être les 27 plus les 9 candidats, tout de suite, pas dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, tout de suite, faire en sorte que, à l'automne, Zelensky puisse faire partie d'une réunion A36 à Bruxelles, avec les drapeaux, faire en sorte qu'on puisse partager le multilatéralisme européen. Ça ne détruit pas l'Union européenne. Ce serait quelque chose à côté de l'Union européenne, qui puisse donner donc aux pays candidats, Ukraine en tête, la possibilité tout de suite d'entrer dans la famille européenne. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que j'ai l'expérience du passé. Et le passé nous dit que toutes les promesses d'entrée rapide à l'Ukraine dans l'Union européenne sont des fausses promesses. Et dans cette situation-là, il ne faut pas donner de fausses promesses. Parce que la séquence... promesse, attente, frustration est là.
Ça a été... ce qu'on voit déjà avec les Balkans occidentaux.
Mais évidemment. Mais moi, j'ai écouté des dirigeants d'Albanie, de Macédoine du Nord me demander, mais écoutez, on est là depuis 10 ans, on attend. Faut-il se faire envahir par la Russie pour être digne pour vous d'entrer dans l'Union européenne? C'est un discours cruel. Mais c'est un discours qui a une partie de vérité, je pense. Donc, je pense que c'est le moment du leadership européen, c'est le moment dans lequel il faut le démontrer, ce leadership, et il faut de la créativité. Moi, j'ai apprécié la proposition que le président français a faite. Il a appelé ça communauté politique européenne. Le conseil informel, qui probablement sera convoqué à Prague, parce que la République tchèque a pris le relais de la présidence française pendant le prochain semestre, le 6 et 7 octobre. Il va discuter exactement de ça. Je pense que ça va être un sujet majeur parce qu'il faut de la créativité, il faut construire quelque chose de nouveau, il faut partager. Et j'ajoute une chose pour terminer. Il faut aussi, de notre point de vue, vous le disiez Stéphane, et vous avez totalement raison, le point essentiel, c'est que nous, les Occidentaux, on a pensé que l'entrée de l'Europe centrale et orientale, bon, ils étaient là, ils s'ajoutaient à quelque chose que c'était nous. Alors moi, je pense que maintenant, on a compris que on est tous ensemble dans quelque chose de plus important, parce que c'est eux qui avaient raison. C'est les Polonais qui, pendant les dernières 10 années, moi j'étais témoin au sein du Conseil européen, au sein des institutions européennes, dans lesquelles ils nous disaient, écoutez, la Russie, c'est une menace. Et nous, on disait, bon, c'est les Polonais. On disait toujours comme ça. Et eux, ils avaient raison. Et je pense qu'une classe politique... digne de son nom, doit reconnaître ses fautes. Et là, c'est une faute majeure, celle de le déni, de ne pas avoir vu voir et vu arriver ce qui était en train d'arriver, parce qu'à la fin, bon, on était tranquille comme ça. Et c'était beaucoup plus simple comme ça. Mais je pense qu'il faut être réaliste. Il faut savoir là jusqu'où on peut aller, et il faut surtout prendre les bonnes décisions au bon moment.
Alors espérons que ce ne soit pas un vœu pieux ou de l'ordre de la théorie, puisqu'on voit déjà que les fractures entre Europe occidentale et Europe centrale et orientale s'accentuent. Selon une enquête récente du Conseil européen pour les relations internationales, les divisions qui sont entre populations, alors je reviens à vous, c'est l'inspecteur, les divisions entre populations sont pas béantes, mais enfin elles existent de plus en plus entre un camp de la paix, c'est comme ça qu'on l'appelle, l'Italie, votre pays, Enrico Letta, l'Allemagne, qui souhaite une issue rapide à la guerre, même au prix de concessions territoriales pour l'Ukraine, et le camp de la justice, représenté plutôt par la Pologne, et peut-être même la République tchèque, qui vient de prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne, qui sont plus pour aller, pour faire payer la Russie. Donc on voit bien que les fissures sont là, donc tout ça est extrêmement fragile, comme on sort de cette guerre. On aura en tous les cas pour cette première émission essayé d'aborder quelques-unes des réponses. Il est 18h55, je vais me tourner vers Baptiste Roger Lacan du Grand Continent, qui a pris donc des notes tout au long de cette émission, qui vous a écouté, qui a pris des notes et qui est chargé de la lourde tâche de synthétiser cette émission et d'ouvrir à demain. C'est à vous, Baptiste.
D'abord, merci à vous trois, à vous quatre, parce que c'était absolument passionnant. Moi, j'ai retiré trois grandes questions de ces longs échanges, qui sont assez simples. Bon, c'est logique pour un premier débat. Que ressentons-nous devant ce qui se passe depuis 5 mois? Comment en sommes-nous arrivés là? Et où allons-nous? Que ressentons-nous, Stéphane Audouin-Rousseau, vous l'avez exprimé au début, c'est la stupéfaction, une stupéfaction paradoxale. Devant l'impression que la guerre serait revenue soudainement sur le continent. Pourtant, vous avez rappelé que la guerre a toujours été présente en Yougoslavie, c'est vous qui le rappeliez, ou en Géorgie, c'est Enrico Letta qui le rappelait, tout en rappelant que la paix en Yougoslavie s'était faite aux États-Unis. Donc, effectivement, nous avions peut-être ce sentiment étrange que la guerre avait disparu du continent. Stupéfaction aussi devant la réalité de la guerre, que nous avions oublié, ce que c'était qu'une guerre symétrique d'une part, et d'autre part qu'une guerre s'accompagnait toujours de crimes de masse, une guerre moderne en tout cas. Comment en sommes-nous arrivés là? C'est peut-être la question la plus difficile, c'est peut-être aussi celle qui nécessite le plus gros mea culpa des Européens. Comme vous le disiez, Enrico Letta, nous nous sommes aveuglés, nous n'avons pas écouté nos partenaires d'Europe de l'Ouest, à commencer par la Pologne, de l'Est, à commencer par la Pologne. Nous avons aussi laissé s'effacer progressivement les lignes rouges et nous avons cru que la parenthèse ouverte selon les pays en 1945 ou en 1962, voire en 1989, était durable. Cette parenthèse s'est refermée et ce faisant, elle a laissé des traces. Nous ne sommes plus prêts pour la guerre. Nous ne savons pas comment faire face à ce phénomène. Néanmoins, l'Europe a été capable de surmonter de nombreuses crises dans les 20 dernières années et je renvoie ici un article que vous aviez écrit dans le Grand Continent, Enrico Letta, sur les 7 unions, où vous parliez du fait que l'Europe avait été capable, par exemple, de créer l'Europe de la santé au moment de la crise du Covid. Ce que nous avons fait dans le domaine sanitaire, serons-nous capables de le faire dans le domaine militaire?
Et donc, où allons-nous?
Et alors, où allons-nous? C'est pas évident. D'une part, se pose la question de la victoire ou de la défaite, comment ne pas perdre la guerre, ou comment, ou plutôt comment faire en sorte que la Russie n'ait pas tellement l'impression qu'elle la perde, qu'elle réagisse violemment en utilisant l'arme nucléaire. Se rappeler aussi que c'est une guerre de valeurs qui se joue, et enfin, se poser la question du démos européen, c'est ce dont vous parliez, Céline Spector. Vous exprimez un optimisme modéré, en espérant que l'union par la peur se traduise par l'aboutissement à une fédéralisation, à une solidarité positive. Et néanmoins, il faut faire attention à la séparation entre l'Est et l'Ouest.
Et c'est sur cet optimisme modéré qu'on va rester peut-être, hein, ensuite demain. Parfait. Merci beaucoup Baptiste Roger Lacan et un grand merci à vous trois, Céline Spector, Enrico Letta, Stéphane Audouin-Rousseau. Merci à vous, public qui avez écouté. Vous allez avoir la parole dans quelques instants. Ces rencontres de Pétrarque ont été préparées par Roxane Poulain, réalisé par Nathalie Salle. Un grand merci à toutes les équipes techniques. Aujourd'hui, François Rivalan, David Abicassis, Thomas Robin, Mathieu Leroux, Julien Calvas, chargé de production Sandrine Bréchaud. Et merci aux équipes du festival. On se retrouve demain pour parler de la dialectique de la guerre entre négociation et attaque et du rôle de la diplomatie. À demain.